La nouvelle bouquinerie. L'émission des littératures de Radio Campus Paris. Une heure pour explorer des fictions, des romans, des récits, pour mieux nous comprendre. Candide au pays de Candy et des sucettes autrefois. Que pouvons-nous oser maintenant? Malgré la richesse du silence, quels mots et quels termes pour explorer ces profondeurs, se déplacer, mais aussi se planquer, pour enfin s'entourer. Une cohorte de jours se présente devant chacun et chacune. Une vie sans universel nous mène-t-elle vers l'espace et l'esplanade de l'espérance? La paix peut se transporter et trouver une place, y compris dans des contrées béatifiant les urnes de ses us et coutumes. La nouvelle bouquinerie, ce soir, accueille deux femmes qui aiment l'art, deux femmes artistes, deux femmes lectrices. Nous sommes ce soir en présence de Marie Charelle, bonsoir. Et nous sommes en présence de Laure Gauthier.
Bonsoir.
J'ai eu la chance de lire les ouvrages de ces femmes. J'ai eu la chance de rencontrer la première fois Laure Gauthier il y a quelques années à la Maison de la Poésie de Paris, où il était question d'une performance de Caspar de Pierre.
Oui, en 2018.
Qui est un recueil de poésie.
Oui, recueil de poésie publié à la lettre volée, effectivement, qui était. J'avais fait une performance d'une vingtaine de minutes avec David Christoffel également, dans le cadre du marché de la poésie, avec Jérôme Gamme.
Et donc, dans ce cadre de la Maison de la Poésie, les écritures sont partagées. Et aujourd'hui, on peut également partager les différents champs de la langue, ce qu'elle nous offre pour déployer nos ailes, peut-être aussi les refermer quand c'est nécessaire. Marie, vous avez abordé dans votre ouvrage « Qui a peur des vieilles ?» les différents aspects de la figure des femmes, de la femme, et comment elles ont été travaillées. Alors moi, ce qui m'a touchée dans votre travail, la première chose, et c'est ma première question, c'est votre grand-mère Léa. Que vous abordez, qui est la pierre de touche de votre travail. Qu'est-ce que vous pourriez nous décrire votre grand-mère? Qui était-elle? Ou qui est-elle, si elle vit encore?
Ah, c'était la grand-mère qu'on rêve d'avoir. C'est-à-dire qu'elle était, elle était impertinente, drôle, parfois un peu méchante, mais ça me plaisait bien, parce qu'elle se fichait un peu de ce qu'on attend d'une grand-mère comment dire, c'était pas une grand-mère qui faisait des gâteaux et qui attendait gentiment à la maison. C'était plutôt une grand-mère qui nous emmenait dans les forêts, qui grimpait au mur et qui nous laissait regarder la télé jusqu'à très très, très 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 tard le soir. Elle était très libre. Elle se moquait des autres vieilles, comme elle les appelait. Et enfant, ça me marquait beaucoup parce que je me disais, j'ai envie de devenir comme ça. J'ai envie d'être elle plus tard. Et puis j'ai grandi, j'ai oublié ça. Et un jour, je me suis surprise à avoir peur de vieillir. Et je me suis dit, mais où est passée mon admiration pour Léa? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? D'où ça vient? Qui est-ce qui m'a greffé cette peur de vieillir dans le cerveau, alors que je ne l'avais pas enfant, puisque j'avais envie d'être comme Léa directement, quoi, de sauter la case vie professionnelle, etc. Et c'était un des points de réflexion, un des débuts de ce livre sur... Quel est le problème dans notre société où on a peur de l'âge, alors que ce n'est pas naturel, ça n'a pas toujours été le cas. Dans d'autres sociétés, ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans nos normes, d'autant que nous sommes des sociétés qui vieillissent, des sociétés de vieux, qui n'osent pas se regarder telles qu'elles sont et qui souffrent de ça, de manière générale, puisqu'on est obsédé par, par les corps jeunes. On voit partout dans la publicité. Bref, je balance un peu tout ça dans le désordre, mais il y avait toutes ces questions-là qui sont parties de questions personnelles, d'observation, et puis il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas un ouvrage de développement personnel pour les femmes de plus de 50 ans.
Alors c'est assez évident quand on vous lit, on parle d'une façon sensible et en creux, malgré ou grâce à la réduction, les deux mouvements se complètent, grâce à la réduction qui est dans le livre, il est question aussi de la peau justement des femmes qui ont une expérience de vie importante. Et cette peau, elle est aussi ce langage invisible qu'on partage forcément quand on est une petite fille avec sa grand-mère et qui irrigue la femme, en tout cas qui... qui a créé aussi la femme qu'on est devenue. Et à plusieurs moments, vous vous appuyez du coup sur des récits, des expériences de femmes, des érudites, des artistes, des intellectuels qui ont dit non, qui ont retranscrit un autre rapport au pouvoir et au langage et comment justement traduire leur corps dans une dimension de leur réalité pour construire une véracité d'un vécu de femme. Et notamment, celle qui m'a beaucoup touchée, c'est Hildegarde de Bingen, parce que je l'apprécie particulièrement, parce qu'elle est issue d'une époque qui est le Moyen-Âge, ou à une époque où il semblerait, en tout cas, selon certains historiens, qu'il était question de beaucoup plus d'équivalence entre les êtres humains.
Tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans l'histoire, selon les continents et selon les sociétés et les civilisations, le regard sur l'âge et sur l'expérience n'est pas le même, et en particulier celle des femmes. Et ça se questionne. Pourquoi aujourd'hui c'est dévalorisé et pourquoi une femme perd de la valeur sociale, je parle de manière générale encore, quand elle vieillit, alors que dans d'autres lieux, dans d'autres époques, c'était plutôt vu comme quelque chose de valorisant. Et pourquoi il y a une inégalité homme-femme à cet égard? Et quels sont les vécus des femmes derrière toutes ces images-là? J'avais aussi envie d'interroger ça dans le livre, d'aller parler aux femmes, et comment est-ce qu'elles vivent l'avancée en âge. Et certaines le vivent bien, certaines se sentent plus libres. Et j'avais envie de parler de ça, de dire c'est pas aussi cette idée que oh là là, c'est terrible, il faut courir après la jeunesse et absolument maquiller. Un certain nombre de femmes ne vivent pas ça. Voilà, donc j'avais aussi envie de mettre ça dans le livre pour que... je crois qu'il est important que les jeunes femmes, et les très très jeunes femmes, puissent se projeter dans des modèles de femmes qui vieillissent bien et qui se fichent du marketing, de l'apparence, etc. Et il n'y a pas assez de ces modèles-là, je pense.
Alors, vous réagissez en disant oui, qu'est-ce que ça...
Je réagis en disant oui, bien sûr, dans cette idée de faire l'expérience des choses, dans tout ce que le néolibéralisme nous colle comme étiquette et comme réduction, même si ce n'est pas toujours sur cet endroit sur lequel j'écris, mais la vieillesse intervient dans plusieurs de mes livres. Il n'y a pas de mélodie dans Les corps caverneux, dans celui d'avant, qui est comme une femme âgée dans un EHPAD s'accroche à des poèmes pour tenir le temps et vieillir moins. Il y a dans La cité dolente, un vieil homme qui choisit de s'enfermer volontairement dans un hospice pour avoir le temps de développer des images intérieures. C'est aussi sur un corps vieillissant qui ressort à la fin. Et à la fin, Mélusine, alors je n'ai pas prévu de lire ça, c'est peut-être ça que je lirai quand même, Mélusine s'échappe du temps du conte et accepte de vieillir. Et ne veut pas d'une vieillesse de faussaire, comme elle dit. Prend le temps de vieillir, d'écrire. Alors, elle n'a plus le temps d'écrire des grands récits, elle écrit des petits textes. Et elle va un jour, je ne vais pas raconter complètement la fin, mais elle va accepter ce moment de la mort qui est tout sauf mortifère. Puisque quand on accepte et le vieillissement, c'est qu'on accepte aussi un jour la mort. Et c'est ce que nos sociétés refoulent en mettant les cimetières loin, en aussi la force d'euphémisme dans la langue. Mais tout ça, c'est dans la consommation libérale, sans doute. C'est quand même lié à des étiquettes et à la réduction de l'imaginaire, une réduction considérable de l'imaginaire, où effectivement la vieillesse, ce qu'on appelle la vieillesse en tout cas, effectivement je pense qu'on est les premières générations, en tout cas moi j'avais une maman née en 1931, qui est décédée au moment de l'an dernier, mais qui a tenu à 92 ans, qui était comme un modèle d'activité, de pensée alerte jusqu'à la fin et qui donne cette envie en fait d'être soi, de rester peut-être, de demeurer avec des phases de vie où on se redéfinit, où on continue. C'est-à-dire qu'on a des phases de 5 ans, de 7 ans, de 3 ans, de ne pas être au miroir des, 50, 60 ans, mais continuer en fait, oui, effectivement. Et s'intéresser à ça, ce n'est pas dans le champ... C'est heureusement dans la poésie et la littérature, souvent c'est quand même davantage dans le champ des écrivains, puisqu'en général on écrit depuis des endroits qui sont un peu hors champ de la société, mais c'est pas en tout cas dans l'endroit qui est éclairé aujourd'hui, ces autres corps, ces autres voix.
Alors ce champ du libéralisme, en tout cas ce concept ainsi défini en économie, c'est en tout cas pas à Marie-Charles Rel qu'on apprendra grand chose puisque vous êtes journaliste aussi spécialisée en économie pour le journal Le Monde. Ce champ du libéralisme, il sculpte le corps, il demande en tout cas à ce que le corps réponde à une notion d'une femme marchandise qui n'est qu'une vieille notion bien évidemment, que le corps des femmes appartient aux hommes et de ce fait qu'il faut qu'il convienne ce corps aux hommes. et vous le relevez à plusieurs endroits sur les injonctions faites aux femmes. Et de façon assez touchante, on vous suit au début du récit qui a peur des vieilles, dans cette enquête menée à partir de votre vécu, qui se rend en tout cas dans un institut pour mettre des produits chimiques sous votre épiderme pour correspondre justement à cette injonction. Et là, vous vous dites non et vous entendez cette voix de votre grand-mère. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette voix de votre grand-mère à ce moment-là ?
Eh ben stop ! J'ai mis cette anecdote parce que je trouvais ça intéressant de dire que je me pensais immunisée contre ce genre d'angoisse parce que justement, je crois que le savoir et l'expérience sont précieux et sont un pouvoir bien plus important que celui de l'apparence. Et pourtant, j'ai été rattrapée par ces angoisses. Donc ça aussi, c'était pourquoi à un moment, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose contre ces rides du lion, ces rides de l'inquiétude qui se marquent sur mon visage, parce qu'évidemment, je suis inquiète et angoissée par à peu près tout ce qui se passe dans le monde. Et pourquoi j'ai voulu effacer ça et parce qu'on intègre ces injonctions, justement, de l'importance de l'apparence. Et donc, je trouvais important de le mettre dans le livre pour dire que, voilà, en fait, personne n'est immunisé contre ça, et il faut essayer de comprendre et peut-être regarder ça avec bienveillance pour peut-être en rire aussi et mettre de la distance dans tout ça. Et moi, j'en ai beaucoup ri quand j'ai entendu ma grand-mère Léa me dire ouais, qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vas mettre de l'argent? Non, ne le fais pas, je ne l'ai pas fait, heureusement, parce qu'on vient, on parlait du libéralisme, du capitalisme, évidemment un marché énorme aussi. Et Laure, vous parliez des mots, je crois que c'est très important et de se méfier des euphémismes, oui. De ne pas dire vieux mais senior, oui. De ne pas dire aveugle mais malvoyant, tous ces mots polissés comme ça pour cacher la réalité, cacher qu'on cache les vieux pour mourir dans les EHPAD, que la violence envers les handicapés qui n'ont pas accès à de nombreux services publics, elle est là. Donc cette tendance qu'ont nos sociétés à... une espèce de politiquement correct alors que la violence est là, je trouve ça terriblement comment dire ça poliment hypocrite, et assumons les mots et nommer les choses, c'est important. Ne pas les nommer, c'est une forme de violence, surtout quand on fait de l'écriture et de la poésie, je pense.
Oui, ne pas faire l'expérience des choses, parce qu'on nous détourne de l'expérience. C'est une des expériences vieilles. Mais en général, pour moi, le libéralisme, en nous ensevelissant ou nous occupant la surface des choses, nous empêche plus généralement de faire l'expérience des choses. Vieillir en est une, mais effectivement, oui. Et ces euphémismes, en tout cas ces attaques au langage, cette réduction du langage, détournent de l'importance d'en faire l'expérience, de ne surtout pas... voilà, et de donner des atours extérieurs pour effectivement de masquer, cacher. Ouais.
Or, cette hypocrisie que vous nommez Marie, à certains égards, vous la mettez en corps de mots, Laure, sur cette société qui est quasiment orwellienne, en tout cas de facilité analogique. On pourrait considérer que Mélusine Reloaded, qui a eu un prix du premier roman en 2024, il est très en lien avec cet univers, en tout cas, qui vous préexistait. Et vous investissez de ce fait des mots. En tout cas, votre langage va être investi de cette charge-là dans une grande douceur. Et c'est ça, moi, que j'ai beaucoup apprécié, sans rentrer dans le psychodrame. Alors que j'ai questionné à quel point il pouvait être masculin, ce psychodrame orwellien, où là, on est dans une forme de douceur machiavélique, en tout cas, certains ont dit nietzschéenne. Mais il y a quelque chose qui prend à bras le corps, le réel, dans votre langue. Et ça, c'est vraiment remarquable. Moi, c'était un des très bons moments de lectrice. Est-ce que vous pourriez nous décrire la fabrique? Vous avez été à la maison Julien Gracq pour écrire votre ouvrage. Comment ça s'est passé, cette fabrique de Mélusine Reloaded?
C'est très important. En tout cas, l'énergie était quelque chose de très important. Est-ce que je me demandais si, pour tous les ravages, j'écris surtout ce qui me déclenche l'écriture? C'est souvent les attaques faites. Alors, les attaques faites à la langue sont celles qui me touchent le plus, peut-être celles pour lesquelles je vais le plus à l'écriture, bien évidemment, ne sont pas les seules. Et les attaques aujourd'hui sont tellement massives, hein, partout où on va, qu'elles soient écologiques, politiques, culturelles, sociétales. Et face à cette aggravation, on peut quand même le dire, montée des fascismes, mais cette aggravation du monde, mon écriture, enfin, j'ai déplacé l'écriture. C'est là où j'ai eu besoin de rentrer dans un récit complet et aussi d'avoir la prose pour qu'on ressente à quel point, en attaquant la langue, on attaque la singularité, en attaquant la singularité, on attaque aussi le collectif, on attaque aussi l'idée de démocratie. Et donc, les premiers chapitres sont un peu en caméra froide, sont plus asséchés, et montrent un monde désolé, hein, une Paris où on ne lit plus, où il n'y a plus qu'un seul livre, c'est Nadja de Breton, et qui travaille sur la pauvreté, il n'y a plus que le surtourisme, le monde ne tourne plus que comme une coquille vide autour du tourisme, de lui-même, s'expose lui-même sans sens. Et il était important pour moi, assez vite, de montrer combien, alors de trouver un endroit de langue pour montrer ses attaques au langage, cette simplification, et ça a été les acronymes. Donc ce monde, au début, est rempli d'acronymes qui sont publiés à la fin. Hein. Donc voilà, il y a APA, Archives Poitevine Augmentée, il y a l'invitation à la procréation, IAP, JAM, Joue Artificielle Multisiliconée. Il y en a plusieurs comme ça. Et ce monde qui ne fonctionne que par filtre, hein, complètement inhumain, enfin retiré d'humanité, son expérience de la langue, ça a été le premier angle pour incarner ces attaques. Et ensuite, là-dedans, l'idée était de ne pas céder à la pure dystopie. Alors mes modèles sont plus kafkaïens, déjà chez Kafka, même si Kafka est en effet un homme, il est en tout cas il accueille beaucoup de fragilité aussi. Donc c'est vraiment moi je suis germaniste de formation et j'ai beaucoup grandi avec la littérature allemande, donc c'est dans les dystopies, je dirais que c'est beaucoup Kafka qui m'a marqué. Plus encore que Orwell. Et j'ai voulu mettre en tension un univers qu'on pourrait dire vaguement kafkaïen avec l'univers du conte qui est générateur d'utopie. Alors je sais bien qu'à un moment il était de bon ton de rejeter l'utopie, mais je ne sais pas ce qu'on va faire si on n'a pas d'utopie aujourd'hui. Et donc il y a une deuxième écriture qui vient contrebalancer ça, comme vous nommez, de douceur sans doute, en tout cas qui est plus lumineuse, qui est une espèce de matrice de rêve, car je crois vraiment qu'en ayant une langue singulière et en touchant à l'imaginaire des gens, et en l'occurrence Mélusine, c'est un imaginaire collectif, en le renouvelant, en me tournant vers le passé, en reprenant un conte et en tentant de le réécrire totalement, intégralement, on le tend aux générations à venir, et on peut faire bifurquer, je pense quand même, on peut faire bifurquer, proposer. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées, qui sont bien sûr des utopies, mais qui sont pas si éloignés. Je pense que la vie de la cité, la politique, se nourrit aussi de la fiction. Je crois quand même qu'elle peut, voilà, que la fiction peut à un moment irriguer, en tout cas au moins un espoir possible, même si cet espoir est mince et même si le monde va mal, puisqu'il n'y a aucun moment mièvre ou totalement optimiste dans le texte. Mais il y a quand même l'idée que même s'il devait rester peu de temps, c'est ce temps-là, ce présent-là, est un présent important dont il faut prendre soin.
Et ce soin, on va le prolonger par le son en écoutant un extrait musical. We'll be right back. Et c'était Björk avec Bachelorette.
Le petit coin.
Il y a quelqu'un ?
Lecture.
C'est occupé.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je lis.
Le petit coin.
Une chronique littérature jeunesse de
Julie,
Mathilde
et Marie.
Tu lis quoi ?
Aujourd'hui, on vous parle de Un brouillard mini de Karen Autois et Vincent Pianina. L'hiver arrive.
Ce n'est pas un temps à rester seul, c'est un temps à être amoureux.
Ce qui est le ver de terre.
De tout petits animaux.
Un ver de terre.
Une mide.
Une sauterelle.
Un escargot.
Un lucane.
Une araignée.
Ont un grand besoin d'amour.
On dirait qu'il veut se blottir dans l'amour et l'amitié.
C'est vrai qu'on est bien dans l'amour et l'amitié.
Alors, ils s'écrivent des lettres avant de se rencontrer en vrai ou pas. Ce qu'on aime au petit coin lecture.
On aime les personnages.
Le ver de terre romantique, la sauterelle trop drôle qui comprend tout de travers, la pauvre coccinelle qui est triste parce que le ver de terre ne lui répond plus.
Moi, elle m'a fait pleurer cette coccinelle.
On aime parce qu'on peut décider comment on lit le livre.
Au début, franchement, c'était pas facile à suivre.
La présentation du livre est un peu déroutante au départ. Au fil des pages apparaissent des lignes qui correspondent à la maison des personnages principaux. Un parti pris qui donne au lecteur une part active dans la narration, puisque plusieurs choix de lecture sont possibles.
On aime le mélange des sentiments,
même si c'est triste un peu parfois.
Le ver de terre écrit une lettre galante à la mythe qui lui préfère la sauterelle qui, elle, ne comprend rien du tout. Le ver de terre éconduit finit par trouver l'amour avec un lucane. Et là, c'est la coccinelle qui plonge dans le chagrin.
Heureusement que la sauterelle nous fait rire.
Elle est trop drôle avec ses mots qu'elle transforme.
Comme dans la vraie vie, les sentiments et les émotions se succèdent et se bousculent.
C'était le petit coin lecture.
Aujourd'hui avec Un brouillard mini de Karen Autois et Vincent Pianina. Un livre paru aux éditions Albin Michel Jeunesse en septembre 2024.
Il est 20h28, nous sommes toujours en compagnie de Marie Charelle pour parler de son ouvrage « Qui a peur des vieilles » et de Laure Gauthier pour aborder « Mélusine Reloaded ». Et maintenant, je vais évoquer deux lectures que je vous recommande. Le premier, c'est Claire de Derrère, « Les monstres », avec le sous-titre « Séparer l'œuvre de l'artiste ». Donc c'est une réflexion qui est menée depuis quelques années, on pourrait dire depuis l'apparition en 2017 du mouvement MeToo. Et donc, cette journaliste et critique de cinéma au New York Times, qui écrit également pour The Paris Review, The Atlantic, Vogue et Slate, aborde eh bien, ses choix de spectatrice et comment aujourd'hui elle les remet en cause, puisqu'elle n'arrive plus à regarder Roman Polanski, alors même qu'elle est invitée à pouvoir discuter de telle et telle scène, et qu'aujourd'hui, face de nouveau au crime qu'il a perpétué sur cet enfant de 13 ans, eh bien, elle s'avère être incapable eh bien, de regarder le moindre film de l'artiste. Et elle questionne de proche en proche, avec une forme de justesse, ce qui procède d'une remise en cause et d'un questionnement. Donc je vous recommande cet ouvrage qui, en tout cas, nourrit une réflexion de façon sincère, sans être galvaudée. Second livre, Laure Adler, La voix des femmes. Alors comme je disais en off pendant qu'on écoutait Bachelorette, pour les auditeurs, je disais à Marie Charelle qu'il y avait des points communs avec le travail de Laure Adler dans cet ouvrage. Et de ce fait, ici aussi, il y a question d'une recension érudite, des figures, de personnages féminins, artistes, érudites, de façon assez complète et elle fait des liens, Laure Adler, entre ce qu'elle a vécu en tant que femme féministe des années 70, appartenant à un certain milieu social qu'elle décrit comme la bourgeoisie, et de ce fait, Elle fait des allers-retours sur ce qui existe aujourd'hui, ce qui n'existait pas, ce qui donne une forme d'espoir, tout en réactualisant l'ultra-violence qui est de nouveau présente, qu'on appelle le backlash. Et par ailleurs, moi, c'est sa réflexion sur l'amour qui m'a paru la plus intéressante. Comment apprendre à aimer, s'aimer soi-même, comment, en dehors des impératifs catégoriques aujourd'hui, se définir soi-même en dehors des prêt-à-penser. Et cette réflexion sur l'amour et la joie est un creuset qu'elle sculpte tout au long de ses pages, révélant ainsi la puissance des femmes et qu'elle, cette puissance, elle fait toujours peur et qu'elle invite souvent une réponse assez minable de la part des hommes. Voilà pour les conseils de lecture. Et là, je vais vous inviter à être auditeur, comme vous l'êtes déjà, auditeur d'un extrait de Mélusine Reloaded, lu par l'autrice.
Les lettres mortes. Dans une rue très fréquentée, une femme entre deux âges observait les passants qui se photographiaient à outrance. Très lente, manifestement sans force, elle semblait transparente. Dans cette rue passante qu'elle tentait péniblement de traverser, tout le monde se photographiait. Elle observait un couple qui souriait devant la vitrine d'une librairie, et l'un des deux, était-ce une femme, semblait aimer le reflet de l'autre dans le miroitement de la vitre. La joie se lisait sur leur visage, une joie que les habitants de la capitale n'éprouvaient plus depuis longtemps, mais qu'ils observaient sur les lèvres des touristes traversant, Les librairies étaient très convoitées. C'était un fond de selfies répertorié et particulièrement apprécié. Depuis des années déjà, les libraires de la ville ne vivaient que des subventions allouées par le conseil municipal augmenté, CMA, qui avait à cœur que de telles vitrines subsistent dans le centre. Les librairies traversaient ainsi des siècles, même si plus personne ne lisait. Le comité de soutien aux vitrines françaises, CSVF, contribuait à l'achat de nouveaux volumes à exposer en vitrine ou à mettre en rayonnage si d'aventure quelqu'un entrait pour les feuilleter ou les filmer. Il subventionnait également le pilonnage des exemplaires passés de mode, tandis que 10 poètes français étaient sélectionnés chaque année pour imaginer des titres agréables à survoler et 10 plasticiens payés pour élaborer des couvertures aisées à photographier. Les poètes, triés sur le volet, percevaient une prime pour concevoir des contenus insolites. Ils gagnaient suffisamment d'argent pour se nourrir et continuer d'écrire de la poésie pour eux-mêmes et parfois leur famille. Les autres poètes vivaient dans les faubourgs pauvres, dans l'espoir d'être recrutés. On déplorait d'année en année l'augmentation du nombre de suicides parmi eux, car non seulement le CSVF n'en choisissait que 10 par an, mais il avait coutume de renouveler certains auteurs dans leurs fonctions. Le vivier s'amenuisait, et des rivalités agitaient les chantres de l'originalité de surface, domaine jalousement gardé. La ville ne vivait que de l'image qu'elle donnait d'elle-même. Hormis le tourisme, toute l'industrie avait périclité. Seules les personnes vivant dans le centre-ville étaient autorisées à la conception et la diffusion du maintien de l'image de la ville, afin qu'elle demeure le fond de selfie préféré des tétés et la première destination traversante mondiale. La femme continuait péniblement d'avancer. Comme elle était la seule qui ne se photographiait ni ne regardait son reflet dans les vitrines des magasins subventionnés, les gens se retournaient sur son passage, se demandant si elle était une touriste traversante. À son sourire, ils devinaient qu'elle n'habitait pas la ville. Si la population de l'hypercentre HC arborait parfois des sourires de façade, les habitants des faubourgs ne le faisaient jamais à cause de l'état déplorable de leurs dents. Comme peu de gens exerçaient un travail rémunéré, il n'y avait guère que les membres du comité de maintien de l'image de la ville, CMIV, qui pouvaient s'offrir le luxe de consulter un dentiste et donc de sourire. On ne tolérait pas de dentition délabrée sur les selfies des tétés. L'amende encourue était exorbitante. La population ne souriant plus, il était devenu inutile de réparer les bouches, hormis pour les personnes qui avaient pour fonction de « sourire comme autrefois », SCA, ce qui constituait un fond d'écran prisé.
Merci beaucoup pour cet extrait. Merci Laure. Alors j'ai une question à vous poser, Marie. Les poètes, au regard des coupes budgétaires que vous suivez très certainement dans le milieu de la culture, est-ce que sur les 10% qui resteraient, 10 poètes, c'est ça, hein, il y a 10 poètes sélectionnés par an, est-ce qu'on en est proche? Là, en l'occurrence, la maison Julien Grec qui a accueilli Laure il y a peu de temps est menacée. Quel est votre regard aujourd'hui en tant qu'experte ou en tout cas en tant que personne qui lit beaucoup, beaucoup et qui rédige beaucoup sur ces sujets?
Oh là là, vous avez 3 heures. C'est un peu paradoxal parce que je crois que plus le monde va mal, plus on a besoin de littérature, de poésie, et plus c'est vrai que c'est dans la culture qu'on coupe. C'est d'une banalité, d'une trivialité de le dire que... Ouais.
Le départ, ouais, la région Loire qui veut couper 75% du budget et condamner aussi la Maison Julien Gracq et plein d'autres associations et plein d'autres lieux.
Voilà, et que dire à part le déplorer, parce que c'est parce que sans imaginaire, et pour reprendre ce que Laure disait, on a besoin d'un petit coin d'utopie quelque part ou d'un livre où s'évader quand tout le reste s'effondre. Moi, je crois vraiment au refuge de l'imaginaire, quel qu'il soit. On l'a tous vécu, je crois, pendant le Covid. Ce moment où on était enfermés chez nous, on n'avait que les livres ou des films ou une forme de fiction nécessaire, je crois, pour s'échapper. En tout cas, quand il n'y a pas d'autre échappatoire possible que voilà, qu'un petit peu... Moi, je n'arrivais pas à lire de romans, par exemple, pendant le
Est-ce que vous en avez écrit, parce que vous êtes aussi romancière Est-ce que ça a été une période propice à l'écriture ?
Oui, et surtout, moi, je ne pouvais lire que de la poésie. Alors, ça peut paraître un luxe de se dire, voilà, je ne peux lire que de la poésie. C'est certainement un luxe, mais moi, il n'y avait que ça qui ne faisait sens. La narration roman ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas. J'étais trop angoissée, j'avais trop peur, et j'avais besoin de quelque chose qui me court-circuite la tête. Et la poésie est la seule forme qui, à ce moment-là, fonctionnait. Peut-être que pour d'autres, c'est la peinture, peut-être que pour d'autres, c'est... Mais je crois vraiment que c'est vital. Et j'ai l'impression de dire quelque chose de très banal. Et en même temps, quand on le vit, ça ne l'est pas du tout. Voilà, je n'ai pas du tout répondu à la question. Mais
vous avez répondu à ce qu'elle vous inspirait. À certains égards, dans Lake Placid, excusez-moi, la fille de Lake Placid, moi, j'aurais pu penser que vous l'auriez écrit, en fait, durant le Covid, puisque on voit tout de suite qu'il y a une écriture où on a un univers à David Lynch. En tout cas, on fait superposer l'existence de Lana Del Rey avec la chanteuse Joan Baez, qu'elles auraient pu se rencontrer. Et de ce fait, dans ces deux champs qui peuvent paraître, en tout cas, situés à des polarités bien distinctes, là, il y a un rassemblement. Quelle a été pour vous l'intention ? Est-ce que vous me dites, elle est fan de Lana Del Rey et de l'autre artiste ? Et là, du coup, elle s'est fait plaisir. Est-ce que ça a été... Comment ça s'est passé pour vous ?
Alors, elles se sont rencontrées. Elles ont joué sur scène ensemble. Et Joan Baez a peint le portrait de Lana Del Rey, puisque maintenant, elle est surtout peintre. Et ce qui m'a amenée à ce livre, il y a plusieurs chemins. Il y a la poésie. D'abord, parce que quand Adeline Fleury, qui a lancé cette connexion pour les pérégrines, m'en a parlé en me disant, voilà, on cherche... l'idée, c'est d'écrire sur des femmes audacieuses à travers le roman, des figures de femmes inspirantes, audacieuses, quelles qu'elles soient. J'étais en train de lire la poésie de Lana Del Rey. Je ne suis pas particulièrement fan de sa musique, mais sa poésie m'a beaucoup parlé. C'est tout ce que j'aime, sa poésie. Et je lui dis, tiens, c'est audacieux, en fait, quand on est une pop star mondiale, de faire de la poésie, c'est quand même une niche. C'est intéressant, c'est pas l'image que j'en avais. Et puis j'ai découvert ce tableau, ce portrait d'elle par Joan Baez. Je me suis dit, tiens, pour que Joan Baez ait envie de la peindre, il y a quelque chose chez cette fille. Et j'ai eu envie d'en faire des personnages, de créer une fiction autour de leur rencontre, qui est réelle, et de m'amuser avec l'idée que Lana Del Rey... c'est un pseudonyme, comme beaucoup d'artistes, comme David Bowie, comme tant comme Lady Gaga. Enfin bref, il y a des milliers d'exemples, et de dire ce sont des personnages de fiction finalement. Et le vrai artiste derrière a construit ce personnage de scène. Donc on peut faire de la fiction autour d'un personnage de fiction. Donc il y avait beaucoup de réflexions un peu comme ça, avec l'envie de parler de poésie et de pousser au bout ce personnage de fiction qu'est Lana Del Rey dans cet univers lynchien américain hyper référencé. Et d'en faire aussi une forme d'hommage à ces deux créatrices, ces deux artistes, ces deux poètes, puisqu'elles ont ça en commun aussi. Voilà, donc c'est un espèce d'exercice de style et d'hommage à la poésie de ces deux femmes.
En tout cas, on vous invite à découvrir le livre également chez Les Pérégrines. Et on va écouter, si c'est possible pour vous, là, un autre extrait de votre livre, Mélusine Reloaded.
Cette fois-ci, c'est un extrait... du dernier chapitre, le début. Alors, je ne dévoile pas la fin du chapitre, mais parce que je voudrais faire écho aussi au livre de Marie. Et ce moment où Mélusine sort du temps du conte et accepte le vieillissement. À la saison humide, les nuages restants la regardaient. Les masses d'eau accumulées transformaient le ciel qui se couvrait alors d'immenses cumulos, que l'on appelait communément, depuis quelque temps, les cumulocargos, tant ils déchargeaient leurs pluies froides en masse. Les nuages au ciel observaient la population vieillir et se fichaient bien des greffes de peau qui se pratiquaient de plus en plus souvent. Ils se fichaient aussi des cuirs chevelus élevés sous serre et implantés après 55 ans. Le Poitou rationnait l'eau et l'électricité dans chaque civité, mais la calvitie avait disparu en même temps que Mélusine. La fée, elle, ne voulait pas d'une vieillesse de faussaire. Elle voulait une vieillesse commune au milieu de ses anciens administrés, une aube éprouvée, vieillir à même. Peu lui importait que ses cheveux se clairsèment et que sa peau se craquelle, elle acceptait de vivre la vie d'une étoile en accéléré et de décliner en intensité. La beauté, c'était l'acceptation, pensait la fée. Accepter l'irréversibilité. À Rochefort, elle était venue écouter la précarité et voir ce qu'elle lui enseignerait. Dans ses journées lentes et comptées, Mélusine prenait le temps de vieillir. Elle chantait le moineau commun qui, tous les matins, venait à sa table et s'y reposait. Elle se demandait combien de temps cette cohabitation durerait. Qui des moineaux communs ou de ses anciens administrés survivrait à la chaleur outrancière ou aux pluies acides? Un jour, elle sourit en voyant apparaître un deuxième moineau près de la haie de bruyères et de conifères. Elle avait décidé que le soir de sa vie serait aussi beau que celui des journées sur la baie, inondé d'une lumière qu'elle affectionnait. La fée âgée n'écoutait pas les missives du parti apocalyptique Poitevin, PAP, qui se réunissait en secret malgré la dissolution imposée et qui distribuait par-dessous la haie des capsules vocales difficilement destructibles émettant plusieurs heures par jour des appels à des rituels sacrificiels pour prévenir l'apocalypse. C'était à d'autres de lutter, elle le savait, et se contentait de faire taire ses capsules et de les apporter au coin de la rue à des habitants qui les transformeraient pour construire une station d'épuration des eaux de pluie multicontaminées. Les humains avaient fait des présages de la fin du monde, avaient cherché à la singer pour tenter de la contrôler dès qu'ils s'étaient redressés, ne voulant reconnaître qu'ils ne savaient pas où leur chemin menait. La fée préférait se concentrer sur ce qui était à traverser et imaginer une rive possible. C'était assez. Pas besoin de se dire qu'on vivait une post-histoire, ça n'aidait pas la population, pas plus que ça n'aurait aidé les hommes des cavernes à se dire qu'ils étaient arrivés sur Terre avant JC. Chacun faisait ce qu'il pouvait, les prématurés comme les retardés. Mélusine avait tenté d'implanter deux pommiers pour récolter quelques fruits, tant ceux-ci venaient à manquer. Pour l'heure, les troncs vivaient et quelques branches poussaient. Peut-être quelques fleurs s'épanouiraient-elles avant la saison chaude et un fruit poindrait qui satisferait son envie de pomme. Mélusine avait accepté la vieillesse humaine, sans savoir combien de temps elle durerait, et admirait la rosée tant qu'il y en avait. Elle avait aussi appris à aimer le ciel, orangé, qui scintillait d'une couleur qu'elle ne connaissait pas les soirs de grande marée, quand la mer rejetait des algues rouges par centaines de milliers sur les côtes et dévastait les 5 ou 6 kilomètres qu'elle traversait. La population avait l'habitude de se rendre en urgence à Porchères. Mortelle, les algues venaient du nouveau royaume d'Armorique, NRA, et dégageaient un gaz suffocant qui endormait les animaux restants et les humains vieillissants, n'ayant pas la force de quitter le territoire assez précipitamment. Le NRA avait des taux de toxicité qui faisaient exploser les appareils de mesure. Le roi autoproclamé était mort il y a peu de la peste du porc augmenté, PPA, tout comme ses sujets. La terre du pays avait été intégralement infestée par l'élevage intensif d'animaux couchés et engraissés qui, au fil du temps, naissaient sans pattes. Des bustes surmusclés à manger au rabais, voilà ce qu'ils étaient. Mais la PPA infesta la terre d'Armorique jusqu'à 3 km de profondeur, de sorte que nul n'y pénétrait plus. C'était une contrée abandonnée, d'où s'échappaient certains jours les gaz mortels qui se répandaient sur le Poitou. Mais on avait appris à faire face.
C'était un extrait de Mélusine Rilaudine. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces quelques moments entendus, Marie? On terminera notre émission là-dessus.
Mais j'ai envie de lire le début, le milieu, la fin. C'est... Il y a beaucoup de poésie, de l'humour. J'ai envie de lire la suite.
La nouvelle bouquinerie, c'est terminé. On vous invite à lire. Merci à chacun d'avoir été présent. Bonne soirée.